France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Faudrait que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville, Christophe Chassol.
Bienvenue au Théâtre de l'Alliance Française, bienvenue sur France Musique. Bonjour Christophe Chassol.
Bonjour Saskia.
Et oui, le vendredi, nous menons cette émission à deux, à deux voix. Je suis ravie de vous retrouver.
Pareillement.
Et puis nos auditeurs, nos auditrices présents dans la salle ici, soyez les bienvenus.
Bienvenue.
Quel plaisir de vous avoir à nos côtés pour explorer le riche répertoire de la musique classique. On rappelle un petit peu, allez, ce n'est que la deuxième, le concept de l'émission.
Un concept très simple, hein, Saskia. On a plein de morceaux qu'on veut partager avec vous et on trouve un thème, un prétexte, un argument, une idée, une question pour les relier.
Le thème du jour, je peux le dévoiler cette semaine-ci ?
Je peux le faire, s'il vous plaît ?
Allez, d'accord.
Merci.
C'est pas parce que c'est vous.
Ouais. Mineur et majeur.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Bon, en musique, pour moi, c'est simple. Hein, c'est les accords mineurs et les accords majeurs. Mais bon, on peut l'entendre de plein d'autres façons.
Et lesquels, par exemple ?
Je vous ai dit ça tout à l'heure. Hein, les mineurs, ceux qui vont dans la mine, en dessous. Puis les majeurs, ceux qui votent, par exemple.
C'est trop fort, Christophe. Pour moi, je trouve qu'il y a certes la théorie, tout ce que vous venez de dire. Et puis aussi, le point de vue de l'histoire. Donc voilà, ce sera un petit peu moins ma perspective.
Vous voulez dire les choses qui restent et les choses qui ne restent
pas,
et les choses majeures. D'accord, ok.
Exactement. Alors, majeur ou mineur, c'est parti ?
Eh ben, c'est parti. Que puis-je vous dire ? Vous savez tous reconnaître un accord majeur et un accord mineur.
Justement, non, pas tout le monde.
Par exemple, vous savez, on nous dit tout le temps ceux qui sont lumineux, voilà, sont les accords majeurs. Si bémol ré fa. Et puis le mineur, la note du milieu, le ré, va descendre et ça va donner si bémol ré bémol fa. Voilà. Celui qui est gay, celui qui est triste, en gros. Hein. C'est très basique, hein, ce que je vous dis. Hein. Ah, vous reconnaissez, hein, vous savez lequel est majeur, lequel mineur. Ça, c'est quoi, par exemple ? Voilà. Et celui-ci ? Non, majeur aussi. C'est ça que je vais faire le piège. Donc voilà, je vous fais le majeur, puis le mineur s'enchaîner. Écoutez. 3, majeur, mineur, majeur. Puis je vais vous mettre des basses derrière. Écoutez ce qu'on peut faire. C'est pas aussi binaire que ça, la musique.
C'est ça que j'allais dire, c'est beaucoup plus subtil.
Oui, c'est plus subtil. Il y a de l'ambiguïté parfois aussi.
Comment est-ce qu'on choisit une tonalité quand on écrit un morceau, Christophe ? Enfin, je vais vous demander ça à vous, puisque vous êtes compositeur.
Mais je crois qu'on ne choisit pas, les tonalités nous choisissent, hein, j'ai l'impression.
C'est-à-dire ?
Je sais pas, je me siffle quelque chose dans la rue que j'ai envie de mettre en musique, par exemple. Je ne crois pas qu'on choisisse. Ce que je sais, c'est qu'il y a plein de morceaux en do majeur à écrire encore. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à écrire en do majeur, la tonalité la plus simple. Mais non, ça nous choisit. C'est l'inspiration.
Oui, c'est le génie, le talent, évidemment.
L'artrice.
Christophe, vous allez être surpris, mais je suis d'accord avec vous.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, il faut que je change d'avis alors.
Non.
Ah bon. Mais il y a pas,
Mais c'est vrai. Alors, je ne compose pas, hein. Fort heureusement, mais effectivement, le choix d'une tonalité principale majeur ou mineur, ça ne se choisit pas, effectivement, ou si, parfois. Cela dit, ce que je veux dire, c'est que ça ne dicte pas tout. Ça ne va pas dévoiler immédiatement le parfum de l'œuvre dans son entièreté. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus ambigu que ça. Donc, une œuvre en do mineur, on fait souvent référence à la mort quand on utilise le do mineur. Eh bien, ça ne sera pas forcément désespéré ou triste du début à la fin. Sont vraiment les enchaînements harmoniques, les modulations, le fait de changer de tonalité qui va créer l'atmosphère, la couleur, le ton d'une œuvre et provoquer surtout des couleurs différentes.
Oui, votre do mineur dont vous parlez, regardez. Voilà, il pleut. Mais si je vous joue le la bémol qui est en dessous, et là, on est tout de suite.
Mais voilà, c'est complètement ça. On peut avoir du majeur triste, du mineur joyeux. On peut tout faire finalement, et c'est ça qui est assez sympa. Alors moi, je vous ai choisi une sonate de Mozart.
Mozart.
La 11e sonate. Je crois que vous connaissez certainement ce rondo à la turca, le 3e mouvement. C'est le mouvement final donc de cette sonate. Et là, on alterne vraiment des passages en majeur, en mineur. On commence en la mineur. Allez, on l'écoute. Sonate en la majeure, mais dont le 3e mouvement est en la mineur. On a commencé en la mineur, vous voyez ici, hop, on repasse en la majeur.
Oui, c'est vrai. La si do dièse, c'est le do dièse qui fait tout.
Et là ?
Si, ah oui, on repasse en mineur.
Fa dièse mineur.
Ok, c'est vrai.
Hop, on repasse en la majeur. Oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'on passe de l'un à l'autre avec une signe, évidemment avec l'écriture de Mozart, une fluidité assez géniale.
Vous savez qu'on peut superposer aussi.
Ben aussi, mais alors là c'est pas le sujet moi de mon choix ici, mais vous nous en parlerez par la suite. Mais effectivement, ce la mineur, il est pas du tout triste.
Non, il y a une petite nostalgie quand même.
Ouais, mais la nostalgie c'est pas triste.
Ça dépend de la vie qu'on a menée. Ouais.
C'est pas faux. Mais il y a vraiment ici, voilà, le rythme de marche aussi, oui. Quand même assez enjoué, qui permet de transformer ça.
C'est vrai que la vitesse n'est pas très synonyme de tristesse.
Ben complètement. Hop, on repart au début. Mais on est alors dans quelque chose de quand même plus lumineux, mais vous savez, la semaine dernière, je vous parlais du trio de Schubert. On était déjà un petit peu en train de se balader d'un bord à l'autre. Non, moi, je trouve que c'est un bon exemple de mouvement en la mineur, mais qui oscille entre les deux. Et voilà, pour remontrer. Mais c'est comme dans la pop, hein, Christophe. Il y a toujours un petit bridge à un moment dans un morceau.
Ouais, un pont,
Parce que si on gardait la même tonalité du début à la fin du morceau, on deviendrait fou.
Oh, mais tout est possible.
Tout est possible.
Bah, vous voyez, par exemple, le Steve Reich de la semaine dernière, Four Organs, c'est tout le temps le même accord.
Oui.
Et on s'y plaît bien, on se repaît dans cet accord, on baigne dedans, c'est bien.
Ah
aussi.
Voilà, c'est bien, finalement, on n'est pas d'accord. Parfait. Christophe, on passe à votre exemple suivant.
Oui, alors bon, c'est sur cette idée que c'est que la musique n'est pas binaire, triste ou gay, qu'il y a plein d'autres, une palette d'émotions, vraiment que les compositeurs et compositrices ont vraiment exploré. Il y a, par exemple, moi, c'est l'ambiguïté que je trouve pas mal. Et alors, ça m'a fait penser ce thème au anti-héros. Vous savez ce qu'est un anti-héros ? C'est un héros qui n'a pas les caractéristiques du héros traditionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas vaillant, il n'est pas vertueux, etc. J'ai deux anti-héros à qui j'ai pensé. Il y a Gaston Lagaffe, évidemment, un de mes favoris, et Blondin. Blondin, Clint Eastwood, dans Le Bon, la Brute, le Truand. C'est la pire ordure que le monde ait jamais portée. Et il s'appelle Le Bon, Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo. Le Bon, la Brute, le Truand, il est pas du tout bon, vraiment. Et bon, par exemple, dans ce film, il y a une scène où on arrive dans un camp, un fort, avec des soldats qui sont un peu tous morts. Bon, voilà, Clint Eastwood, lui, est très ambigu, mais c'est plus qu'ambigu, c'est une ordure. On va écouter comment, dans la musique, on traduit ça. On va traduire ça par une superposition de tonalités. On écoute. Sol, si, sol, ré majeur. Sur le tapis qui, lui, est plutôt sombre et mineur. La trompette, elle, est très lumineuse.
Mais ça veut dire qu'il a quand même un petit peu de bon, ce personnage, non ?
Ah oui, oui, à certains moments, il aide, il peut aider un soldat en détresse, mais son but est le trésor. Et voilà, ça se traduit bien avec cette trompette qui est en sol majeur. Alors que derrière, en dessous, le tapis de cordes était lui très sombre. Voilà, l'ambiguïté, la dualité.
Et puis vous avez un autre exemple.
Oui, pareil, le même genre de sentiment chez Ottorino Respighi, un compositeur italien. Alors j'ai noté cette date. Respighi est.
Ça doit être 1879. Ouais,
il est 1879-1936.
Ouais, c'est ça, on va dire plutôt fin 19e.
Voilà, ouais. Et voilà, il y a un extrait que j'adore, que je trouve très beau, justement parce qu'il y a cette ambiguïté. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas où on est, quoi. Donc, on écoute. Ce corps qui va arriver.
Ah oui.
Lado.
Lado.
Je ne sais pas où je suis émotionnellement là-dedans.
Mais on dirait presque qu'on est dans une sorte de rêve et puis le rappel à l'ordre, à la réalité, mais qui est joyeuse, quoi.
Ouais. En dessous, c'est pas joyeux, je trouve.
Non, ça a l'air
compliqué.
Et au-dessus,
ça l'est, mais c'est faussement joyeux. Donc voilà, l'ambiguïté en musique, enfin, la palette d'émotions est dingue en musique. Voilà.
On peut tout superposer.
Oui, alors je voulais juste vous superposer ça. Tout à l'heure, on l'a fait. Juste le do mineur dont vous parliez, le do majeur avec un do mineur au-dessus. Non, ça donne ça. Ouh! Alors, do majeur. Et do mineur en dessus. Vous voyez que ça frotte? Où ça
oui,
frotte?
C'est compliqué, quand même.
C'est ça qui frotte.
Ouais.
Voilà, mais ça dépend comment on le joue, écoutez.
Vous nous faites presque du Steve Reich, là.
C'est l'intention qui compte, c'est ça que je voulais dire.
Avec cette superposition, exactement.
France Musique, Saskia Deville, Christophe Chassol.
Et puis je le disais en tout début d'émission, il y a le point de vue de l'histoire, Christophe, vous savez, ces œuvres qui nous sont parvenues d'autres pas ou d'autres qui viennent d'être redécouvertes ou qui ont été redécouvertes il n'y a pas si longtemps. Alors la postérité a-t-elle forcément rendu hommage à toutes les grandes œuvres?
Ah, forcément non.
Forcément non. Et puis le caractère mineur d'une œuvre lui est-elle conférée par son destin?
Bah, si elle a un destin, si on en parle, c'est qu'elle est pas mineure, je trouve.
Ah, peut-être. Ou bien si on en parle aujourd'hui, du moins. Alors moi, je vous ai choisi une œuvre qui a été longtemps, alors je l'espère plus aujourd'hui, mais considérée comme mineure, mais moi que je trouve absolument majeure. C'est une œuvre signée par Barbara Strozzi. Est-ce que vous connaissez cette compositrice?
Je la connais pas du tout.
Compositrice italienne, née en 1619 à Venise, compositrice, chanteuse, claveciniste, luthiste, compositrice complètement oubliée par l'histoire.
Par l'histoire et les hommes.
Et par les hommes, mais oui, qui sont souvent écrites. Mais une femme assez incroyable dans le sens où c'est une femme, une fille légitime, mais qui a été finalement quand même accompagnée par son père, qui était Giulio Strozzi, un homme très influent, un grand intellectuel à Venise à l'époque, et qui l'a vraiment formé. Il lui a fait suivre notamment des cours avec Cavalli, qui était un grand compositeur d'opéra. Et cette femme, cette chanteuse, cette compositrice, va vraiment mener une carrière professionnelle. Elle va inviter tout ce que Venise peut compter de grands artistes, de grands intellectuels, dans son salon où elle propose, crée ses propres œuvres. Elle chante, donc. Elle elle va connaître du succès auprès du public, elle va éditer ses œuvres sous son propre nom, ce qui est une performance à l'époque. Enfin bref, j'avais envie de vous faire écouter l'un de ses airs, c'est, pardonnez-moi mon accent italien, « Che si può fare ?» Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe ? C'est pas mal quand même.
Je trouve ça très beau. Je me demande, ça a été écrit quand, vous dites ?
On est au début, première moitié du XVIIe siècle.
Ah, j'ai l'impression d'entendre un morceau de pop comme ça, là.
C'est vrai.
Et, c'est très beau. C'est très beau. Et dedans, il y avait la mélodie aussi à osciller entre majeur et mineur, avec en créant de la dissonance sur ces accords. C'était intéressant.
Vous voyez, œuvre mineure, mais que je trouve majeure, qui comporte du mineur majeur.
Et écrite par une personne qui était majeure à l'époque.
Qui était majeure, voilà, Barbara Strozzi.
Donc.
Allez, Christophe. C'est à vous.
Alors, encore un exemple de superposition d'accords dans une pièce que j'adore vraiment, que je ne cesse d'écouter depuis mes 20 ans. C'est dans Les Planètes de Gustav Holst. Gustav Holst, compositeur anglais. Alors, c'est des dates, lui, c'est 1874-1934. Et alors, c'est cette pièce, cette suite symphonique pour orchestre et chœur de femmes, Les Planètes. Parle des planètes du système solaire. Chaque mouvement est une planète. Il y a Mars qui apporte la guerre, il y a Jupiter, Saturne, et la dernière, c'est Neptune, la mystique. Et alors, je vais juste vous jouer les accords pour que vous saisissiez à quel point on peut superposer du majeur et du mineur, par exemple ça. Là, c'est un mi mineur sur un la bémol majeur. Donc ça donne ça. Et alors voilà, on est censé être dans l'espace infini, hein, dans le cosmos. Ou bien 20 milieux sous les mers, quoi. Écoutez ce que ça donne. Mais on écoute avec l'orchestre. Et on arrive bientôt à la superposition des deux accords. Ça va être bientôt. Et voilà, on y est, l'accord que je veux jouer. Deux harpes. En fait, je trouve que le fait de ne pas choisir entre majeur et mineur, bah, ça nous donne ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire le mystère, quoi.
C'est ça que j'allais dire.
Ouais. Et mais je l'ai dit avant.
J'ai perdu.
Et on retrouve cet accord magnifique, là, écoutez, il arrive des profondeurs de l'océan, là. À son souffle et la grande plongée. Oh. Voilà le pouvoir de la musique, hein, de creuser dans les émotions, dans la palette d'émotions humaines.
Mais j'allais dire finalement le thème de cette émission, c'est pas majeur ou mineur, mais c'est majeur et mineur.
Oui, c'est ça. On n'exclut rien.
Mais voilà.
Ça s'additionne.
Christophe, quelle merveille. Oh, moi, j'adore ces planètes.
Ouais.
C'est absolument génial.
Neptune, hein, la mystique, le dernier mouvement.
Chères auditrices, chers auditeurs, on va vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau prétexte
ouais, voilà.
Pour vous parler de musique avec Christophe Chassol. Je voudrais tout de même remercier l'équipe avant de se quitter. Éric Lancien, Pauline Boisaubert, Marie Le Peintre, Jean-Benoît Tétu, Stéphane Touvenin, Antoine Tropé, Annabelle Touloumet, et Charles Cérès, et puis au Théâtre de l'Alliance Française, de nous accueillir aussi. Christophe, on va se quitter en musique, allez, aujourd'hui. Ouais. Avec qui j'arrête ?
Oui, qui j'arrête, pourquoi pas. D'ailleurs, il s'est arrêté hein, de jouer.
Ne me dites pas pourquoi pas, c'est vous qui m'avez demandé de le jouer.
Oui, non, bien sûr. On va faire. C'est juste parce que dedans, il y a un accord qui est un accord. Bah, d'ailleurs, sur la partition, il est marqué La mineur, majeur 7. Voilà, c'est un accord qui comprend les deux. Écoutez, donc ça fait... Et cet accord-là. Là, il y a les deux, il y a mi majeur et mineur. Donc je vous joue surtout ce petit morceau très joli qui est dans le Cologne Concert.
Merci Christophe Chassol, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Okay.
À réécouter sur francemusique.fr.